ce communicant, mais justement, une fois qu'il a trouvé l'idée, une fois qu'il a validé qu'elle était pérenne ou potentiellement pérenne, il va falloir aller convaincre. Donc, c'est une des rubriques de ton ouvrage avec la méthode pitch. Donc, ce n'est pas juste un pitch, hein, là, en l'occurrence. C'est pertinent, impactant, tolérant, convivial et harmonieux.
Ouais, bah harmonieux, ça veut dire qu'en fait, l'histoire que tu racontes, elle tient debout. Tu vois, c'est comme un scénario de film. S'il est, si c'est trop tiré d'un côté à un moment, si c'est incroyable, ça ne marche pas.
Mais ça veut dire que tu parles de film, ça veut dire que pour convaincre, il faut le héros, en l'occurrence la solution, l'entreprise, des méchants, bref, une mission,
ah, quelque chose comme ça. Oui, c'est vrai, ouais, c'est une bonne analogie. Enfin, c'est-à-dire qu'il faut, oui, il faut de l'adversité. C'est pas simple généralement parce que c'est quand même assez rare, voire même ça n'existe pas, de trouver une idée ou d'avoir une ambition où il n'y a pas d'obstacle. Parce que s'il n'y avait pas d'obstacle, ça existerait déjà. Et d'ailleurs, ça fait partie de l'état d'esprit que l'entrepreneur doit avoir, de comprendre que son rôle, son vrai rôle, c'est de résoudre des problèmes. Parce que si tu veux créer une société, une boîte, et que au premier problème, tu te dis « Oh bah non, alors j'ai des problèmes. » Mais non, mais là, c'est pas la peine de continuer. Parce que le rôle de l'entrepreneur, c'est justement, quotidiennement, de résoudre des nouveaux problèmes. Donc en fait, quand il y a des nouveaux problèmes, il faut juste dire « Ah bah voilà, je vais pouvoir avoir une occasion de démontrer ma valeur ajoutée. Il y a un truc à résoudre. » Et donc, ça fait partie de l'affaire, justement, d'être capable d'aller pitcher les raisons pour lesquelles ce qu'on fait n'existe pas encore et les obstacles qu'il va falloir surmonter pour justement faire en sorte que ça existe.
Alors, bon, moi j'aime bien parfois apporter la partie un peu poil à gratter. Et il m'arrive de rencontrer, je ne sais pas ce que tu en penses, des gens qui sont très très bons en pitch. Et être très bon en pitch, c'est une qualité, certes. Et je trouve qu'il y a une série qui est assez marrante là-dessus qui s'appelle We Crushed. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui est sur WeWork, qui est produit, je crois, par Apple. Enfin, donc, bref, c'est une série qui montre un gars qui a créé WeWork, qui perdait jusqu'à 2 millions de dollars par jour, quand même. Et bon, ça montre que le gars est super fort pour lever des fonds. Et chaque fois qu'il y a un problème, son équipe va lui dire je crois qu'il faudrait peut-être réduire un petit peu la masse salariale, il faudrait peut-être pas signer les prochains baux, il faudrait réduire la surface. Fait, le seul truc, c'est qu'il faut qu'on relève de l'argent. Donc, en fait, c'est un peu une sorte de pyramide de Ponzi, en fait, où effectivement, quand on loue des mètres carrés à un certain prix et qu'on les revend moins cher, on a une grosse part de marché et il fait rêver, parce que c'est quand même génial, WeWork au départ. Hein. C'est effectivement le future of work, travailler différemment. Comment est-ce que tu arrives à distinguer ça, toi, aujourd'hui, parce que tu es entrepreneur, mais tu es aussi investisseur, entre quelqu'un qui sait te faire rêver et ce qu'on appelle parfois le bullshit?
Ouais, je pense que alors ça, au niveau, soi-même, faut pas... alors, les Américains ont une expression pour ça, c'est « don't drink your own Kool-Aid », c'est-à-dire ne bois pas toi-même ton jus de coolitude tous les jours en disant c'est trop bien ce que je fais, enfin faut pas tomber là-dedans. Donc ça, faut faire très attention. Moi, je pense que je suis vendéen, tu vois, j'ai grandi en Vendée entre des vaches et des moutons.
Les pieds sur terre.
Ouais, vraiment. Et je pense que ça aide beaucoup. C'est une sorte d'ancrage qui est quand même assez fort pour être assez réaliste sur ce qui est faisable, ce qui ne l'est pas. On dit souvent que les entrepreneurs prennent des risques, mais je suis pas bien sûr en fait. Un entrepreneur, il prend des risques extrêmement calculés. Hein. Parce qu'il faut que ça passe, tu vois. Et donc, tu prends quelque chose qui, de l'extérieur, peut paraître un risque, mais tu le calcules très, très bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que là-dessus, j'ai beaucoup discuté avec Ty Chris, que tu connais bien aussi, Olivier.
De On Off.
Voilà, On Off. Aujourd'hui, il est connu pour On Off. Mais enfin, avant ça, c'est quand même le champion du monde de roller et des Extreme Games et tout ça. Il a sauté du premier étage de la Tour Eiffel en roller. Je vois le truc quand même. Il a sauté aussi à Montmartre. Alors moi, il se trouve que j'habitais là la première fois. C'est comme ça que j'ai découvert Ty Chris, quoi. C'est-à-dire que j'ai vu un matin, je passais devant le Sacré-Cœur et j'ai vu une rampe s'installer. Je me suis dit, il y a un malade qui va sauter sur cette rampe et dans le vide, quoi. Et puis, quelques jours après, il y avait Ty Chris qui sautait. Donc, mais tu te dis de loin...
Pardon, mais je crois que l'histoire, je ne sais plus si c'était à la Tour Eiffel ou à Montmartre, où la veille, il avait fait un test, il s'était éclaté le dos et que ça s'était joué à très peu déjà de oser se relancer alors qu'il n'était pas bien. Et ils avaient juste, je crois, décalé la ligne d'arrivée pour ne pas tomber avant la ligne et que le record soit battu, mais une persévérance de dingue.
Ouais, quand tu... Là, j'ai eu l'occasion de discuter avec lui intensément du coup de ça, parce que c'est impressionnant quand même quand tu vois le truc de loin. Et alors, certes, il y a un risque, mais il y a un risque extrêmement calculé. Tout est, tout est prévu, puis ça fait des années qu'ils s'entraînent en plus, hein, derrière tout ça. On voit le truc, on trouve que c'est incroyable, mais ça fait des années que tout est préparé, y compris des entraînements incroyables pendant des semaines et des semaines, répétés tous les mois pendant des années. Donc ça se calcule. De la même manière, c'est pareil, Alex Kézerg, qui est champion du monde de kitesurf en vitesse, qui a quand même à 100, alors je ne devrais pas me tromper, mais je crois que c'est 107 km/h en kitesurf. Ça commence à,
ouais, ça, ça, envoie, ouais.
Ça commence à envoyer. Bon, bah, c'est pareil, tu le rends compte et tu te rends compte que pour avoir ce record-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh ben, il est allé tout préparer pendant des années, y compris racheter un endroit en Camargue pour avoir un couloir. Il a creusé un couloir de 800 mètres de long au bon angle
de vent, direction.
Ouais. Pour que quand la tramontane arrive, eh bien, il arrive à avoir le bon vent avec le bon angle pour partir sur un canal qui fait 8 mètres de large et 800 mètres de long. Et pour le creuser, ils ont ramené évidemment des espèces de pelleteuses. Il y en a une qui est tombée dedans. Ils ont été obligés d'aller ramasser la pelleteuse pour la ressortir. C'est sur des années d'investissement. C'est un vrai projet entrepreneurial, tout ça. Et tout ce que tu lis à la fin, c'est les champions du monde de record en kite. Sauf qu'en fait, c'est des années de préparation. Ça paraît être un risque incroyable. Alors, je ne parle pas de la préparation physique. Là, je parlais juste de la préparation du terrain. Et après, quand tu organises, il faut appeler le spécialiste mondial de la prise de chrono qui est aux États-Unis. Il faut l'appeler 4 jours avant que le vent arrive pour que le mec, il arrive avec son chrono, qu'il le pose et qu'effectivement, il constate que là, tu viens de battre le record du monde. Enfin, c'est compliqué, quoi, de faire un record du monde. C'est, ça se prépare. Enfin.
Et tu l'illustres super bien, moi, je trouve, dans le livre. Tu parles de tes milliers de pitchs. Tu parles des milliers de questions, en fait. Hein, qui t'ont été posées, que ce soit par JDC ou PKM au départ. Et en fait, on ressent hyper bien, moi je trouve, cette préparation. Et en fait, on voit que ben, c'est compliqué de bullshiter en fin de compte, parce que tu dois répondre et du tac au tac à tous les sujets, à tous les questionnements pour convaincre ton investisseur, quelque part pour convaincre aussi tes équipes, ton staff et pour mettre en place ton projet. Et on sent que c'est une sorte de training répétitif. Et ce que tu me disais au début et avant cette interview, c'est que et ton pitch n'est pas forcément toujours le même d'ailleurs. Enfin, tu vas l'adapter non. En fonction de ton interlocuteur.
Oui, alors effectivement, le pitch, il doit s'adapter à l'interlocuteur parce que l'interlocuteur, il a parfois déjà les deux tiers des arguments qu'on a en tête. Il les connaît déjà, c'est pas la peine de les lui répéter. Par contre, s'il n'est pas convaincu, il faut aller plutôt argumenter sur la partie qui lui manque. Donc, il faut lui donner les bons éléments. Ça veut dire que bah, parfois, un pitch, on ignore les deux tiers du sujet et on se focalise que sur la partie qui pose problème à notre interlocuteur. C'est pour ça qu'un pitch est jamais exactement le même. Et c'est vrai qu'il y a, enfin, il y a cette conception qu'un pitch est universel, mais moi, je ne crois pas. Un pitch, il dépend vraiment de l'audience.